avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On est ravis de vous retrouver tous en direct. On parle éducation comme chaque jeudi. En cette période de rentrée scolaire, il n'est pas inutile de se demander si les enfants sont heureux à l'école. Mais comment les écoliers et les lycéens évaluent-ils leur bonheur à l'école? Et surtout, est-ce que leurs performances scolaires sont liées à leur qualité de vie? Bref, est-ce qu'on apprend mieux quand on se sent bien dans ses baskets? Et dans ce cas, comment les rendre heureux à l'école? C'est pas notre boulot, répondront peut-être les professeurs. Et les parents, vous dites quoi? Appelez-nous dès maintenant. Sur WhatsApp, ça n'a pas changé le numéro, c'est le 33 7 64 45 51 41, 33 7 64 45 51 41. Dans le studio à mes côtés, Sandrine Mercier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue spécialiste en sciences de l'éducation à l'Université de Nantes. François Durpère, bonjour à vous.
Bonjour
François.
Emmanuel.
Bien connu de nos auditeurs comme spécialiste des États-Unis, mais vous travaillez aussi en sciences de l'éducation, Université de Cergy-Pontoise, membre du laboratoire Bonheur, et vous avez publié Les écoles du bonheur et surtout Une histoire mondiale du bonheur aux éditions Cherche Midi, un livre qui avait été très remarqué, qui a eu le prix France Télévisions Essai. On verra aussi en Allemagne des cours d'apprentissage du bonheur à l'école et au collège avec notre correspondant Pascal Thibault qui est à Berlin. Et en fin d'émission, comme chaque jeudi, la chronique du psychologue Ibrahim Haïdara, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Allez, je vous lis quelques réactions de nos voisins et voisines. Nasser, qui est à Niamey, au Niger, nous dit « Les enfants sont heureux d'aller à l'école à cause de l'argent pour la récréation que leur donnent les parents. » Bon, c'est peut-être un peu réducteur quand même, hein, j'espère. Mais c'est vrai que, bah oui, si on peut s'offrir une petite douceur à la récréation pour des enfants qui n'ont pas forcément fait un gros petit déjeuner au début de la journée, pourquoi pas, ça peut aider à se sentir bien. Un papa, Brice, à Yaoundé, au Cameroun, l'unique secret du bonheur, avoir une cause avec ses enfants quand ils reviennent de l'école. Ça permet de connaître les difficultés qu'ils ont rencontrées à l'école et de trouver ensemble des solutions. Et puis Achille aussi, qui est toujours à Douala au Cameroun, Pour que je sois heureux à l'école, ma maman m'a expliqué l'importance, l'utilité de l'école pour ma vie future. Elle était avec moi quand je révisais mes leçons, quand je faisais mes devoirs. Elle venait rencontrer mon maître ou ma maîtresse pour s'enquérir de ma situation. Elle veillait à ce que j'ai toujours une tenue correcte et mettait toujours un gros goûter dans mon sac. Ouais, on en revient toujours quand même à l'appétit. Et puis également un auditeur qui nous appelle Mohamed, qui est à Porto Novo, au Bénin. Bonjour Mohamed.
Bonjour Emmanuel.
Mohamed, vous avez 27 ans, vous êtes animateur d'activités parascolaires. Et puis vous avez un fils de 3 ans, je crois, Mohamed.
Oui, exactement, Emmanuel.
Alors, est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce qu'on en discute ou pas du bonheur des enfants?
Bon, déjà, pour tout vous dire, je suis un jeune de 50 ans, dont 4 filles, et je m'occupe de l'éducation de mes sœurs parce que...
Ah, on a un petit problème avec la ligne téléphonique, Mohamed. On va essayer de vous rappeler parce que j'ai peur qu'on n'entende pas bien ce que vous dites.
Qui nous fait passer des tests pour savoir quelle filière, vers quelle filière.
On va vous rappeler, Mohamed. On va vous rappeler dans quelques instants. Je vous redonne le numéro de téléphone, les voisins et les voisines. Vos enfants sont-ils heureux à l'école? Vos élèves sont-ils heureux à l'école? Comment on évalue ce bien-être? Et puis, à quoi ça sert pour apprendre? 33 7 64 45 51 41.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète sépare.
Alors, le bonheur à l'école, le bien-être des enfants, Sandrine Mercier, comment faut-il comprendre ces termes? On a entendu le petit goûter glisser dans le cartable, ça peut faire beaucoup de choses, mais c'est plus compliqué, non?
Oui, je pense que ça se structure pas autour non seulement de la nourriture, mais moi j'avais aussi questionné des petits de premier degré à qui on a demandé les meilleurs moments, et souvent la cantine effectivement ressort aussi, donc c'est toujours un plaisir pour les petits et les grands, je pense, de manger aussi, mais de mon côté, de ce que je travaille sur le bien-être plutôt, il y a deux approches qu'on peut dire complémentaires. La première qui serait plutôt à court terme, aujourd'hui, comment je me sens, comment je vois les choses, est-ce qu'il me manque des éléments pour être heureux à un instant T. Et puis la deuxième qui est plutôt à long terme, qu'est-ce que je souhaite pour moi à long terme et un peu les projections, donc comme cet enfant qui comprend pourquoi il va à l'école, pourquoi... finalement, il doit apprendre et sa maman l'encourage et lui donne une tenue vestimentaire qui lui plaira et qui voilà, nourrira aussi son envie d'apprendre.
Est-ce que les adultes pensent si souvent que cela, François Durepère, à poser cette question toute simple ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Comment tu te sens en ce moment ?
C'est peut-être la base de tout, déjà, se préoccuper du bien-être des élèves. Mais Emmanuel, vous avez commencé en disant est-ce que on apprend mieux en étant heureux ? Et j'allais dire, la question, elle se pose aussi pour les enseignants. Est-ce qu'on enseigne mieux en étant heureux à l'école quand on est un prof ? Et ça, c'est fondamental. Il ne faut pas opposer le bien-être des élèves à l'école et le bien-être des profs à l'école. Il n'y a pas d'enfants heureux sans des profs en face qui sont eux-mêmes heureux et qui, le matin, se disent « on fait un métier formidable et ça nous épanouit de faire ça, d'être avec les enfants ». Et comme le dit Sandrine, c'est très important de distinguer, je pense, le court terme et le long terme. C'est-à-dire, savamment, on appelle ça la définition hédonique du bonheur, c'est-à-dire comment tu vas aujourd'hui, comment ça va aujourd'hui dans les choses les plus élémentaires. Est-ce qu'on a la cantine ? Est-ce qu'on a les toilettes ? Et puis, un peu au-delà, est-ce qu'on se sent épanoui ? Est-ce qu'on est intégré dans un groupe ? Est-ce qu'on est rejeté ? Ou est-ce qu'on se sent valorisé ? Et puis, la définition eudémonique, c'est pour après, c'est-à-dire est-ce que l'école n'aurait pas aussi pour but, certes, d'apprendre à écrire, d'apprendre à compter, d'apprendre la culture générale, mais aussi peut-être d'apprendre à être heureux pour la vie, d'avoir un bagage de vie, surmonter les échecs, gérer ses émotions, être bienveillant, être un bon humain. Est-ce que ça fait pas aussi partie de l'école ? Avec les familles, et c'est important qu'on ait eu déjà cette intervention pour dire, ben voilà, moi je vais voir l'institutrice et ou la prof des écoles, on appelle ça prof des écoles en France, eh bien dans ce qu'on appelle la coéducation, eh bien on échange et c'est pas les familles qui ont une partie qui serait l'éducation et les enseignants qui ont une partie qui serait l'instruction,
matière, ouais.
Voilà, c'est les deux qui travaillent à l'éducation des enfants, c'est-à-dire faire grandir l'enfant.
Alors on a retrouvé notre auditeur Mohamed à Porto Novo, j'espère que la ligne téléphonique est un petit peu meilleur au Bénin. Bonjour Mohamed.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez dit au standard, mais chez nous, on ne pose jamais cette question du bonheur aux enfants.
Oui. La question, généralement, elle ne se pose pas parce que moi, jusqu'à ce que je ne finisse mon cursus, on ne m'a jamais posé cette question.
Oui.
Et je n'ai jamais eu à la poser et à mes sœurs également, dont je suis responsable de l'éducation. Oui, je vous écoute.
Non, allez-y, Mohamed.
Ok, d'accord. Bon, nous, on a quand même eu la chance d'avoir un oncle qui est psy. Et c'est lui qui nous fait passer des tests pour savoir à peu près dans quelle filière on doit être orienté et quelles sont les séries qui sont adaptées en fonction de nos qualités, en fonction de nos aptitudes. Donc, mais malgré cela, j'ai une sœur, l'aînée des filles, qui passe en terminale actuellement,
oui.
Mais qui a dû redoubler la cinquième,
oui.
Parce qu'elle n'avait pas la moyenne en mathématiques, elle était pénalisée par les mathématiques. Et jusqu'aujourd'hui, les mathématiques l'embêtent alors qu'elle est dans une série littéraire. Et c'est vrai, ça a été un handicap pour elle à un moment donné, mais on a essayé quand même de remonter la pente, mais ça ne va toujours pas encore comme il le faut.
Oui.
Et généralement, en Afrique, on ne pose pas la question de savoir si les enfants sont heureux à l'école. Et
oui.
Ça, c'est vraiment...
Ce qui compte, c'est de savoir ce qu'ils apprennent et puis surtout les résultats scolaires.
Voilà.
Ouais.
Et c'est, moi, personnellement, c'est par rapport aux résultats que j'essaie de savoir. Je pose des questions. Quand les notes baissent, je demande, est-ce que tu as un problème avec le professeur ? Est-ce que tu as un problème avec tes camarades ? Tu ne comprends pas bien le cours ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais tant que les notes sont bonnes... On ne cherche pas à savoir si les enfants sont heureux en quittant maison pour aller à l'école. Et généralement, les enfants, quand on leur pose la question, ils disent toujours oui. Quand tu leur demandes est-ce que tu as envie d'aller à l'école, ils disent oui. Bon, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas dire non de toute façon.
Oui, vous avez raison, Mohamed. Vous avez raison, d'autant plus qu'il y a des élèves qui marchent très bien à l'école et qui ne sont pas pour autant heureux. Merci beaucoup de nous avoir appelés de Porto Novo. Passez une belle journée. Au Bénin, une journée heureuse, surtout c'est ce qu'on vous souhaite avec les jeunes qui vous entourent. Comment vous faites, tous les deux qui travaillez sur ces thématiques, comment on fait pour évaluer ce que ressentent les enfants et les adolescents, Sandrine Mercier ? Qu'est-ce qu'on pose comme question aux enfants ?
Alors juste pour rebondir d'abord sur ce qu'a dit l'auditeur, C'est intéressant parce que en fait, en France, je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents qui d'abord ne posent pas la question de savoir si l'enfant va bien ou si il a passé une bonne journée. Alors, si, hein, des questions qui peuvent parfois arriver, mais la première question aussi, c'est de savoir est-ce que tu as appris des choses, qu'est-ce que tu as appris, et puis le contenu, et puis est-ce que tu as eu des bonnes notes. Et c'est vraiment centré. Donc, c'est aussi en France, j'aimerais rassurer aussi ce
oui,
papa.
Très c'est utilitariste.
Que, voilà, c'est vraiment sur des choses très factuelles où on peut aussi, d'une manière, on va dire, objective, pouvoir savoir si c'est bon ou il faut progresser. Et ça fait seulement 20 ans qu'en France, il y a des travaux sur le bien-être et qu'on se demande aussi la qualité de vie des élèves à l'école et aussi des enseignants. Donc, ça fait seulement 20 ans qu'on opère une mesure subjective où on demande vraiment aux enfants, aux élèves, de savoir comment ils vont. Puis après, ça passe par des méthodes différentes, mais je vais laisser mon...
Est-ce que même les enfants, les adolescents savent répondre à ces questions?
C'est compliqué, il faut leur demander, il faut leur poser la question, c'est ça. Dans les interventions d'auditeurs, dès le début, il y avait la phrase, je crois, nous on fait des causeries.
Oui.
On fait des causeries. Alors ça, c'est très important, faire des causeries dans la famille, faire ce qu'on appelle, les chercheurs appellent ça, débats régulés dans l'éducation nationale, des débats régulés. Ça veut dire que même, dès les petites classes, on peut faire même de la philosophie avec les enfants. Vous voyez, avec des enfants de 7 ans, on leur demande c'est quoi le bonheur pour vous? Ça serait quoi d'être heureux à l'école? Ah, madame, on va creuser une piscine dans la cour de récréation. Ça peut être, tout peut y aller. Et puis après, on va aller au-delà. Avoir des amis. Eux, ils répondent beaucoup à avoir des amis. C'est-à-dire la relation. La relation, pour eux, c'est ce qu'il y a de fondamental dans le bonheur. Et tu es d'accord complètement avec ce que tu venais de dire pour répondre à Mohamed. C'est qu'il ne faut pas mettre sur le dos de l'Afrique ces problèmes-là, parce qu'on parle de l'Afrique francophone, de l'Afrique qui a été modelée par un système d'éducation à la française, et donc les problèmes, ils viennent de ce système. Hein. Il ne faut pas tout faire porter sur le dos de la colonisation, mais c'est vraiment important.
Avec la pression des notes. Hein,
oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que si on a peut-être des intervenants du Nigeria ou du Ghana, etc., de l'Afrique anglophone, il y a une approche un peu différente, mais dans le système francophone d'éducation, que ce soit en Afrique ou dans tous les pays francophones, on a un peu l'idée qu'il faut souffrir pour apprendre.
Ouais. Et puis dans les pays anglophones, c'est vrai, notamment en Afrique anglophone, on va peut-être accorder plus de place
au sport, comme moyen de
s'émanciper.
On sait bien, au sentiment d'appartenance dans un établissement, on voit qu'ils ont un petit uniforme souvent quand on est dans des... Alors, ce qui est important, c'est de se dire effectivement, il ne faut pas souffrir pour apprendre, il faut faire des efforts pour apprendre. Mais pour faire des efforts, au contraire, il faut aimer, il faut avoir du plaisir. On se rappelle alors, en quelle matière on était bon. Moi, c'était en histoire, je ne sais pas Emmanuel dans quelle... Mais c'était la causerie, c'est pour ça que tu as fini à la radio.
C'est
ce qu'on aime, on fait des efforts là où on aime. Un enfant qui aime le sport, il va faire des efforts. Donc il ne faut pas opposer la souffrance et le travail. Et un dernier petit mot, pour évaluer le bonheur, il y a deux choses, c'est que l'enfant est ce qu'il se sent en sécurité. Il n'y a pas d'enfant heureux si l'enfant ne se sent pas en sécurité, ce que les psys appellent l'homéostasie, le réconfort. Et puis la deuxième chose...
Sécurité psychique et matérielle,
exactement.
S'il n'y a pas forcément de
tout
quoi manger au petit déjeuner à la maison,
et
ça c'est valable aussi pour la France, on n'arrive pas forcément avec...
Évidemment, dans la pyramide de Maslow, en bas, dans les besoins, il y a la sécurité, il y a respirer, il y a avoir un toit sur la tête, il y a manger, il y a pouvoir aller aux toilettes, etc. Dans plein de pays d'Afrique, et pas seulement, les petites filles, enfin les adolescentes, dès qu'elles sont pubères, c'est compliqué, dès qu'elles ont leurs règles, comment on fait s'il n'y a pas de toilettes dans l'établissement? Eh ben, ça se déscolarise. Pour être heureux à l'école, il faut déjà être à l'école. Et ça, c'est une vraie problème. Et la deuxième chose d'un point, il faut être valorisé, se sentir valorisé. Si un enfant est valorisé, il va se sentir heureux. On le voit bien, l'effet Pygmalion, c'est-à-dire un enfant qui gribouille sur un papier, vous lui dites c'est affreux, il va arrêter, il va jeter le papier. Vous lui dites ah, c'est beau ce que tu fais, et l'enfant va s'appliquer. Ça, c'est les deux règles. Un enfant en sécurité, c'est un enfant heureux. Un enfant valorisé, c'est un enfant heureux.
Et il a sa place, évidemment, dans le groupe, pour avoir sa place plus tard dans la société. Que disent les enquêtes internationales, Sandrine Mercier, sur le bien-être scolaire en France? On est mal placé ou pas? Ou finalement, ça va pas si mal?
Alors, pour tout ce qui est des enquêtes de PISA, on est
OCDE. Vraiment,
de l'OCDE, on est plutôt moyen. Ça veut dire que parfois, on est sur la moyenne de l'OCDE et puis parfois, on est juste en dessous. Il y a beaucoup d'éléments. Alors, c'est des élèves hein, de 15 ans, pour repréciser. Donc, ils sont souvent dans le second degré, collège, et qui ont plusieurs enseignants. Donc, ça, c'est important, puisqu'il y a aussi toutes les relations avec les enseignants qui sont parfois, qui se dégradent. Et on observe sur les enquêtes, et puis même les travaux de mes collègues d'Agnès Florin, du laboratoire d'Ukraine, ils mettent vraiment en avant que plus l'âge avance et plus cette satisfaction baisse en lien ouais. avec les relations avec les enseignants. Aussi par la multitude hein, du nombre d'enseignants. Mais...
Il y a aussi le facteur l'adolescence, l'entrée dans l'adolescence,
oui,
où on sent globalement quand même un peu moins bien. On ne peut pas tout imputer non plus à l'école.
Oui, et je pense que c'est bien de rappeler aussi que cet ado, il est juste en mouvement et qu'il a ce droit aussi de devenir un adolescent qui change. J'ai même vu une citation d'Aristote où il explique l'adolescence et je le propose à mes étudiants et je leur fais lire ce passage et je leur dis... Imaginez la date de ce passage, qu'ils comprennent que c'est déjà Aristote qui disait ça sur l'adolescent. Ça les rassure.
Oui, c'est vrai que depuis l'Antiquité, on a toujours dit qu'il y avait un problème avec les jeunes. Donc...
Exactement. C'est important ce que tu disais sur le fait que les enfants, souvent, quand ils rentrent à l'école, ils sont très enthousiastes. Mmh. Les enquêtes internationales montrent quand vous rentrez au collège, vous êtes enthousiaste. Quand vous rentrez au lycée, vous êtes enthousiaste. Et quand vous sortez du collège, vous êtes moins enthousiaste. C'est la recherche qui le dit, c'est triste. Et ça se traduit par un truc, c'est que vous savez qu'à 7 ans, et c'est les médecins qui le disent, un enfant, il sourit 400 fois par jour. 400 fois par jour, on sait que comme le bâillement, le sourire, c'est contagieux. Même avec le masque, on voit quand même les yeux sourire. Eh bien, un adulte, il sourit plus que 15 fois par jour. Voire pour certains, pas du tout. Mais ça veut dire
vous êtes très qu'est-ce... au-dessus de la moyenne, François. Ça fait du bien pour vous.
Vous êtes aussi au-dessus de la moyenne. Mais ça veut dire que qu'est-ce qui se passe dans l'éducation pour qu'on désapprenne aux enfants à sourire ?
Merci en tout cas d'être en notre compagnie, les voisins et les voisines. Alors vos enfants, vos élèves, sont-ils heureux à l'école ? Que faites-vous pour qu'ils se sentent bien ? C'est une bonne question cette rentrée scolaire. Allez, appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Et puis dans quelques instants, on va filer à Berlin, retrouver notre correspondant pour savoir si effectivement on travaille mieux avec le bonheur, notamment quand il est enseigné comme une vraie matière, presque comme les maths.
La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Amis, vos tours attendez donc votre tour pour manger. Se régaler, amis vautours, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixi, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer.
Joa qui chante « La vie est belle » chez 7 milliards de voisins. Et je peux vous dire que nous, on est très, très heureux de vous retrouver en direct sur RFI tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on s'intéresse au bonheur à l'école avec nos invités Sandrine Mercier, François Durper. Je vous lis le message d'Altit qui est à Cabaret à l'ouest d'Haïti. J'ai toujours aimé aller à l'école, sauf les jours où il y avait cours de maths, parce que j'aimais pas les maths, mais j'étais heureux de voir les amis, les élèves. Je les aime et on pense très très fort aux élèves en Haïti, surtout vu la situation actuelle sur l'île, parce que c'est pas facile d'être un enfant haïtien aujourd'hui. Et puis nous partons à Berlin maintenant avec notre correspondant pour parler du bonheur à l'école. C'est une matière qui est consacrée complètement à ce sujet maintenant. L'idée paraît a priori farfelu, pourtant c'est une réalité dans de nombreux établissements en Allemagne, en Suisse aussi, en Autriche. Et pour en parler, on retrouve le correspondant de RFI à Berlin. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour Emmanuel.
Alors dites-nous d'abord d'où vient cette idée de faire du bonheur une matière.
Eh bien, cette idée, elle vient d'un enseignant de Heidelberg, dans le Bade-Württemberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, Ernst Fritz Schubert, c'est son nom, a développé cette idée il y a une quinzaine d'années. À l'époque, on l'a pris, il faut bien le dire, pour un illuminé. Mais ses propositions ont fait école, pour faire un jeu de mots facile. Le fondateur de ces cours du bonheur a même créé un institut qui porte son nom, où des enseignants sont formés pour donc tenir ces cours de bonheur pour les élèves. Les établissements scolaires recourent soit à leurs propres enseignants qui ont donc suivi une formation particulière, ou bien parfois ce sont des étudiants qui sont encore en formation et qui sont peut-être plus au fait de nouvelles méthodes qui se rendent dans les écoles. Tout cela implique parfois des dépenses supplémentaires d'ailleurs que les écoles doivent financer. Et depuis le lancement de cette idée, des études d'évaluation ont montré que cette matière, hors du commun, il faut bien le dire, et pas non plus implantée partout, eh bien, porte ses fruits.
Mais à quoi ressemble un cours sur le bonheur ?
Oui, effectivement, bonne question, Emmanuel.
On fait des exercices.
Il s'agit pas du tout d'un enseignement théorique qui mélangerait un zeste de philosophie avec un peu de psychologie. Non, d'abord les élèves sont souvent peut-être un peu trop jeunes. Non, c'est plutôt des exercices pratiques pour les mettre en situation. Une école, par exemple, a même cassé un peu le décor habituel en excluant les habituelles tables, chaises de la pièce où se retrouvent les élèves et en y installant des coussins. Donc ça ressemble un petit peu, côté environnement, un peu à un cours de yoga. L'idée, c'est que les jeunes apprennent des choses sur eux en mettant en avant des expériences positives. Par exemple, on leur demande ça ressemble un peu à un cours d'éducation manuelle, de construire une tour en accumulant, en mettant l'un au-dessus de l'autre, des objets liés à des souvenirs heureux qu'ils ont en mémoire. L'objectif, c'est de mettre en avant une tour du bonheur, en espérant qu'elle ne s'écroule pas avant la fin du cours. Et qu'elle soit le plus haut possible. Et l'objectif, c'est de mettre en avant justement des moments parfois oubliés qui étaient donc agréables, alors qu'on peut être submergé dans le quotidien par des choses moins positives, par le stress de l'école ou par d'autres raisons. D'après des études, il faut aussi dire que le nombre de troubles psychologiques dans la population en général, mais aussi à l'école, a sensiblement augmenté. Et ces exercices peuvent aider donc à regagner de la confiance en soi, à voir, pour faire simple, le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide, à surmonter plus facilement des moments difficiles. Et certains enseignants qui ont instauré ou qui pratiquent ce genre de cours, on tire un bénéfice, notamment avec la pandémie qui évidemment a été une période difficile, pas seulement pour eux, mais aussi pour les élèves.
Et Pascal Thibault, en quelques mots, quel bilan peut-on tirer de cette expérience original et qui reste quand même relativement limité.
Oui, j'en parlais à une amie enseignante il y a 2 jours, ça ne lui disait absolument rien. Donc les évaluations scientifiques qui ont été faites, elles sont plutôt favorables, elles concluent à des effets positifs pour les élèves. À l'école, bien sûr, lorsqu'on parle d'évaluation, ce n'est pas une matière comme une autre, donc il n'y aura pas une note évidemment un peu difficile, mais ça peut être le cas d'après certains enseignants lorsqu'il y a des exercices comme des exposés ou des travaux de groupe où là il est possible d'évaluer même avec une note malgré l'imprécision que ça peut avoir ce qu'a pu faire tel ou tel élève.
Ouais, on ne redouble pas quand on a raté ses évaluations en bonheur. Encore heureux. Merci à vous, Pascal Thibault.
Merci.
En direct de Berlin, merci à vous. Sandrine Mercier, François Durper, est-ce que l'Europe du Nord est quand même un peu pionnière pour s'intéresser à ces questions-là ou pas ?
Alors, il y a beaucoup de retours qui montrent qu'effectivement, il y a une prise en charge de la diversité des publics qui est très intéressante avec la prise en compte de la singularité. On va prendre l'enfant dans sa totalité et on va mettre en avant plus de temps convivial où les personnes vont pouvoir travailler ensemble et développer le sentiment d'appartenance. Mais c'est parfois très, très positif. Et puis, on a quelques articles qui montrent aussi parfois les limites de ce type d'approche. Donc, c'est peut-être à trouver un juste milieu, mais il y a aussi maintenant d'autres retours qui sont plutôt, et si on devait peut-être trouver un autre milieu dans ces approches-là.
François Durper, vous nous parliez des enseignants tout à l'heure. Il faut qu'ils soient eux-mêmes heureux pour que les enfants soient bien dans leur tête dans la classe, et inversement aussi. Il faut qu'ils aient des enfants qui aillent pas trop mal pour qu'eux-mêmes aillent bien. Alors, qu'en pensent les enseignants parmi nos auditeurs? Deux messages du Sénégal et de Mauritanie, notamment Bouna, qui est directeur d'école à Nouakchott. Écoutez-les.
Bonjour à tous. À la question, ce qu'on doit faire pour que les enfants soient heureux, le seul conseil que j'ai, c'est d'écouter les enfants. L'appel que nous faisons le matin, finalement, et voir comment ils disent présent, c'est déjà un bon départ. On remarque tout de suite celui qui est malade, celui qui n'est pas content, celui qui vient en courant et celui qui est déjà venu mais qui a le front sur la table. À force d'avoir des enfants à côté de soi, on remarque le tempérament, la personnalité, le caractère de chacun d'eux. Donc, celui qui a un caractère explosif et qu'il vient en train des pieds ou bien qui est couché sur la table, on voit que ça ne va pas. Et souvent, l'ambiance de la classe, elle montre le niveau de réceptivité des enfants. Lorsque le cours est trop long, les enfants commencent à se désintéresser. Lorsque le cours est très fatigant, ça n'intéresse plus les enfants. Et on ne doit pas reprocher aux enfants de ne pas être intéressés. On doit se reprocher à soi-même, à l'éducateur, de ne pas avoir les moyens d'intéresser les enfants. C'est là le travail de l'éducateur, avoir l'imagination, le courage, avoir l'énergie. Mais l'énergie que nous devons communiquer à l'enfant, nous devons l'avoir nous d'abord. Il y a des enfants qui m'embêtent tout le temps. Le jour où ils ne m'embêtent pas, je leur demande « Mais pourquoi tu n'es pas embêtant aujourd'hui ?» Parfois, c'est son copain à côté de lui qui me dit qu'il a quelque chose qui ne va pas et j'essaie de remédier à ça. Je vous remercie.
Bonjour RFI, bonjour 7 milliards de voisins. Je m'appelle Amadou Fall Diouf. Je suis enseignant informatique à l'école Sainte-Croix de Bambéi et en même temps professeur d'informatique pour les étudiants de l'université Aline Diop de Bambéi au niveau du CRIW, le centre de recherche informatique WorldLinks de Bambéi. Alors je vais partager avec vous les trois règles fondamentales qui font que mes cours ne sont jamais désertés et que tous les étudiants viennent ou bien tous les apprenants. Première règle, l'enseignant doit toujours être un mythe positif pour son apprenant. Deuxième règle, il faudrait toujours galvaniser le travail ou bien l'appréciation que fait l'élève par rapport à une question que vous avez posée. Et enfin, troisièmement, il faut toujours être là présent pour montrer à l'élève que vous êtes le meilleur de votre génération. Moi, ce sont ces trois règles fondamentales qui font que mes élèves, mes apprenants ont toujours envie de toujours venir en premier lieu dans mes cours et réussir cela. Merci beaucoup RFI.
Voilà, deux enseignants hyper, hyper motivés pour rendre leurs élèves heureux. On donne aussi la parole à un auditeur qui nous appelle. Je vous rappelle notre WhatsApp pour nous contacter, surtout dès maintenant, au 33 7 64 45 51 41. Joël est à Douala au Cameroun. Bonjour Joël.
Bonjour Emmanuel Bastis.
Vous avez entendu les témoignages de ces enseignants-là qui galvanisent complètement leur troupe d'élèves?
Oui, je pense qu'ils sont dans la minorité des enseignants qui ont la vocation d'être enseignants. Par contre, en Afrique subsaharienne, la majorité n'a pas de vocation. C'est-à-dire qu'avec le chômage grandissant, beaucoup choisissent le métier d'enseignant par défaut. C'est-à-dire que pour trouver le masculin. Et en plus de ça, ils sont mal rémunérés. Ajoutez à ça encore, ils ne sont pas motivés. À la résultat des cours, vous trouvez les enseignants qui sont malheureux. Ils ne peuvent pas transmettre aux élèves ce qu'ils n'ont pas. Ils sont malheureux, ils vont transmettre le malheur à leurs enfants. Et les enfants ne seront pas heureux à l'école.
Oui, vous avez raison de soulever effectivement cette situation sociale des enseignants dans bon nombre de pays. Mmh. Quand ils sont eux-mêmes acculés à une foule de problèmes, c'est difficile de chercher à transmettre le bonheur à l'école.
Tout vient d'être dit. Toute réforme de l'éducation dans beaucoup de pays d'Afrique doit commencer par le bien-être des enseignants. Enseignant, c'est, on appelait ça une vocation. On se tourne vers... C'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Donc quand on va dans ce métier juste pour d'autres raisons, déjà c'est un problème. Et ensuite, quand on se sent mal, quand on va faire cours, ben, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Donc il y a plein de moyens de faire en sorte, revaloriser évidemment la condition des enseignants, mais aussi mieux les reconnaître. Je pense que ce qui a été dit par notre collègue de Nouakchott, c'est très important, c'est écouter les enfants. Moi, j'ai enseigné en France, hein, et au bout de 10 ans de carrière de prof d'histoire géo, je me suis retrouvé face à un échec de me dire, j'écoute plus mes élèves. Je suis tellement écrasé par mes programmes scolaires, tellement écrasé par la nécessité de ce qu'il faut, voilà, il faut absolument qu'à la fin du premier trimestre, ils aient appris les dynasties de rois, les Byzantins, etc., que je ne les écoute plus, je ne les entends plus. Or, on ne commence pas un cours à la cloche pour dire « Allez, top, c'est parti, on travaille ». On commence en disant « Comment ça va ?» Et on parle. Et on ne perd pas de temps en échangeant avec ses élèves. On gagne du temps sur l'attention que les élèves vont avoir. Parce que de toute façon, une heure, c'est trop long. Tous les psys vous le montreront. On ne peut pas se concentrer sur une heure. Donc, les 10 minutes pris déjà au début pour parler, à la fin... On ne va pas jusqu'à la fin, jusqu'à la sonnerie. On s'arrête, on dit qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Comment on l'a fait? Est-ce que vous vous sentez bien? Il y a ça de fondamental. Donc, les cours de bonheur, c'est intéressant hein, ce qui se passe en Allemagne, en Scandinavie, ouais. Dans les pays.
Les petits coussins par terre, là, ça vous a inspiré parce que je sais que pour vous, l'architecture aussi, le lieu dans lequel on est, ça a une influence.
À tous les ministres de l'éducation dans tous les pays d'Afrique, déjà commencé. Les salles des profs, vous mettez des petits coussins, vous permettez aux profs de se déchausser. Mais ils se déchaussent. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de francs CFA pour se déchausser.
Sur le continent, on chercherait plutôt à avoir des tables bancs, parce que quand même, ça peut être utile pour écrire aussi.
Mais attention à quelque chose. C'est qu'il ne faut pas forcément faire une école à l'image de l'école qu'on a dans la tête. C'est-à-dire, vous savez, si notre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de 1880 venait dans notre monde aujourd'hui contemporain, elle ne reconnaîtrait rien, ni les transports, ni les bâtiments, tout ce qui nous entoure. La seule chose qu'elle reconnaîtrait, c'est nos salles de classe. Nos salles de classe sont les mêmes. Rien n'a presque changé. Un bonhomme ou une bonne femme face à des élèves qui sont assis, qui ne bougent plus. Dans notre réseau, par exemple, nous, on a des cours de maths à l'extérieur. On bouge, on va dans la salle de récréation. Alors, il n'y a pas forcément de stylo et tout. On apprend.
Pour le projet Bonheur à l'école. Ouais.
Oui. Donc, et d'ailleurs, j'appelle tous les profs hein, qui veulent nous rejoindre. École du bonheur, école publique, privée, tout ce qu'ils veulent. Donc, on labellise les établissements. Puis, on a une semaine du bonheur à l'école. Et des petites choses. Alors, par exemple, quelque chose qui ne coûte pas grand-chose. Dans une cour de récréation, vous mettez un banc de l'amitié. Un enfant qui ne va pas bien... Il va se mettre sur le banc de l'amitié et c'est un signal pour tous les autres enfants qu'il faut aller lui tendre la main. Ça peut être un banc, vous pouvez le dessiner le banc s'il n'y a pas de banc. Il s'assoit à un endroit et ça veut dire que là vous faites de la...
On en est loin quand on sait que les écoles en France ne sont pas capables de régler la question du harcèlement scolaire par exemple qui peut conduire à des suicides d'enfants. On est quand même très loin du banc de l'amitié, non Sandrine Mercier?
Oui, moi je voulais aussi rappeler que j'étais donc formatrice enseignant-chercheur à l'INSPE, donc l'INSPE ancien UFM, ancienne école normale, donc on forme les enseignants du premier et du second degré. Et toutes ces questions-là du harcèlement, on a un colloque qui est dédié, colloque santé, sur les questions du harcèlement, cyberharcèlement. Je suis moi-même très sensible puisque je travaille sur le bien-être et les outils numériques. Donc j'essaye de trouver des pistes pour les étudiants, pour qu'ils puissent eux-mêmes accompagner leurs propres élèves. Mais surtout ces questions de classes flexibles. En fait, aujourd'hui, on parle des classes flexibles où on met des sièges en neuf et où on laisse les enfants s'asseoir où ils veulent pour travailler. Mais ça arrive progressivement, mais en fait... On essaie aussi d'entraîner les futurs enseignants à ne pas se mettre de pression. Alors, il faut absolument les reconnaître encore mieux. Mmh. Et je crois que la crise de la Covid a eu au moins cet impact-là, qui était très intéressant, puisque dans notre enquête qu'on a menée auprès des collégiens, et même aussi auprès de nos PES, donc les enseignants stagiaires, ils ont pu mettre en avant que la relation avait changé, que les parents avaient peut-être mieux compris le travail de l'enseignant, puisque eux-mêmes ont dû faire de la continuité pédagogique.
Puis les enseignants ont appelé tout simplement au téléphone
Ils ont osé s'appeler, utiliser WhatsApp, c'était vraiment quelque chose de particulier. Et je pense que si on doit au moins dire qu'il s'est passé quelque chose, il s'est passé ça.
Ouais. On va donner la parole à Abdel, qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Abdel.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Vous voulez revenir sur, vous avez vu, les enseignants sur le continent africain, on a pas mal évoqué la question de leur statut qui est difficile. Vous souhaitez revenir sur ce que vous avez vécu en tant qu'élève, Abdel ?
Oui, exactement.
On vous écoute, Abdel.
D'accord. Je me rappelle, les premiers jours à l'école, pour moi, c'était pas fameux, hein, pas du tout.
Ah bon ?
Mes premiers jours à l'école n'étaient pas fameux, pas du tout. Mes parents m'ont fait comprendre que c'était pour mon bien, que je devais y aller pour devenir demain un médecin, un avocat, et que ce serait dans mon intérêt pour le futur. Donc pour la première semaine, quand j'ai intégré l'école, j'étais isolé, je restais dans mon coin sans rien dire à personne. Et l'heure de la libération pour moi venait quand les cours finissaient. Mais au cours de la deuxième semaine, avec l'intégration que j'ai eu à connaître avec mes copains à l'époque, et ce génial professeur, M. Noël, que j'ai connu, j'ai commencé par développer un appétit irrésistible pour les études. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai pu finir avec une licence en ressources humaines. Et c'est un peu l'expérience que je voulais partager, en fait.
Mmh. Et que vous avez bravé votre timidité pour parler en direct chez 7 milliards de voisins.
L'émotion. C'est l'émotion aussi, hein. On sent l'émotion dans la voix.
Ouais. Et il existe encore ce maître Monsieur Noël ? Vous voulez lui passer un message ?
Je n'ai plus de ses nouvelles, mais d'où, en fait. S'il m'écoute, Monsieur Noël, je vous adresse mes civilités. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi.
Ouais. Vous rendre heureux à l'école, tout simplement.
Petit détail que j'ai oublié. Mmh. Je voulais en fait devenir commerçant.
Oui.
Donc, c'est après ces deuxièmes semaines à l'école que j'ai commencé par développer un appétit irrésistible pour les études, au point de me sentir à l'aise et de parler aujourd'hui sur RFI.
Voilà, mais commerçant, c'est aussi un très beau métier. Merci à vous, Abdel. Merci de nous avoir appelés. Très belle journée heureuse à Cotonou. On parle du bonheur à l'école. Une semaine du bonheur à l'école, ça se met en place progressivement, François Durepère, avec des académies en France.
Voilà, c'est ça.
Poudre aux yeux.
Alors, c'est académie, c'est en France, mais c'est partout. Hein. C'est pas forcément que français. Hein. Donc, j'appelle vraiment en Afrique à rejoindre... Cette semaine du bonheur à l'école, ça sera la semaine du 20 mars, parce que le 20 mars, c'est la journée internationale du bonheur. L'ONU a décidé de cette journée en disant qu'il faut qu'il y ait des initiatives scolaires. Donc ça sera soit la semaine d'avant, au choix de l'établissement, soit la semaine d'après. Nous, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour échanger les pratiques avant. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, sur Facebook, vous faites juste les écoles du bonheur, même Instagram.
Et donc vous échangez aussi des pratiques, voilà ce que j'ai observé dans ma classe, comment ça change l'ambiance, comment ça détend tout le monde.
Exactement. Alors voilà comment, par exemple, moi je suis à Saint-Martin. Je donne des cas concrets, hein. Et vous avez dit, Emmanuel, le sport c'est très important, la musique aussi, elle adoucit les morts, elle les meurt et elle rend heureux. Et donc ça veut dire que si par exemple j'accueille mes élèves en musique, alors il y a toujours un élève qui fait de la musique, il va chanter, il va faire de la musique, il accueille ses camarades en musique, ça peut être tous les jours un élève différent.
Oui, ça prendrait que ça peut être... 3 minutes.
Puis on peut intégrer aussi ça dans les cours, entre les cours, il y a plein de choses à imaginer, on échange ça. Et quand on est au Cameroun, on se dit « Tiens, ça c'est sympa ce que le collègue fait à Saint-Martin. » Et on essaye et on échange. Ça ne sert pas les réseaux uniquement à hein, on voit beaucoup de haters sur les réseaux, mais il y a aussi de l'échange de pratiques.
Et de bonheur.
Et pour les enseignants, c'est très très utile. École du bonheur, je précise.
On va le remettre sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Une école qui rendrait vraiment les enfants heureux, ce serait quoi ? Sandrine Mercier, ça sera aussi le mot de la fin.
Alors, on se questionne beaucoup en tant que chercheur de savoir quels seront les paramètres qu'il faudrait changer pour que cette école soit aussi bonne et accueillante pour tous les élèves. Mais en fait, je pense qu'il faudra juste être plus dans les valeurs de la République, à savoir être soudés ensemble et puis pouvoir se soutenir les uns les autres. Et après, je pense que tout découle de ces comportements.
Le dernier mot, c'est le mot amour. Un enfant heureux, c'est un enfant qui est aimé. Donc, vous soyez un bon prof, un prof qui est plus en difficulté, un parent qui est en difficulté ou qui n'est pas en difficulté, c'est un enfant, il a de l'amour, il est paré pour le bonheur au présent et au futur.
Et bien justement, on va en parler du bonheur dans quelques instants. Merci à tous les deux, Sandrine Mercier, François Durepère. François Durepère, les écoles du bonheur, et puis plus largement, l'histoire mondiale du bonheur, pour mesurer à quel point cette notion n'est pas si simple, d'ailleurs, d'un bout à l'autre de la planète. Une seule certitude, on n'en parle pas assez. Ça serait bien si ça devenait une préoccupation, des gouvernements, par exemple. Dans quelques instants, on retrouve la chronique du psychologue Ibrahim Haïdara, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, comme chaque jeudi, avec un sujet totalement relié au bonheur, vous le disiez, François Durepère, les adolescents et l'amour, tout un programme, ce sera juste après Song Sega, dernier album de Conti Bilong, le batteur historique de Manu Dibango.
Makomongo matiti bwani na bise wa munao miyombo mongo misidodi na langwedi wa munao makomongo matiti bwani na bise wa munao miyombo mongo na mawasate wa na bena sete wa na timu sango
tiyo mawasano nolimo mebongo matiti bebe namba
na mawasate wa Makomongo matiti bwani na bise wa munao miyombo mongo na mawasate wa na bena sete wa na timu sango
tiyo mawasano nolimo mwebongo matiti bebe namba
na mawasate wa na bena sete wa na titi musango
tiyo mawasano nolimo mwebongo.
Plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Et nous retrouvons le psychologue Ibrahim Haïdara. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue à Bamako et aujourd'hui on parle des adolescents, plus spécifiquement de la conception de l'amour à l'adolescence. Comment les adolescents au Mali et ailleurs dans le Sahel voient-ils l'amour ? Croient-ils en l'amour comme les adolescents d'il y a 20 ou 30 ans ?
Oui, d'avoir l'amour à l'adolescence, ça doit être quelque chose de beau, de romantique, je dirais de sincère, à garder le plus longtemps possible. Mais les adolescents d'aujourd'hui, ils pensent que l'amour ne peut pas être que romantique. Ils sont pressés d'avoir plusieurs amoureux et aussi, ils s'adonnent trop vite à des rapports sexuels, c'est ce que l'on constate. Parce qu'ils ne pensent pas au respect qu'il faut accorder, je dirais, à son partenaire et à la sauvegarde d'une relation qui se joue de nos jours de façon beaucoup plus précoce et c'est autour de 11-12 ans. ces préadolescents, ils deviennent vite des adolescents. C'est important de le savoir. Qui, à leur tour, pensent qu'ils sont déjà adultes parce qu'ils sont pressés de l'être. Et ils surestiment avoir de grands pouvoirs de séduction, ce fameux pouvoir de séduction, et trop d'expérience ou assez d'expérience sexuelle. Ce qui fait que les adolescents, ils accordent très peu d'importance affective, surtout à la relation affective qu'un adolescent peut avoir. C'est très important cela. Et cette relation affective, ils se disent, ou ils oublient de dire que cette affection, elle doit être dirigée vers l'autre, et surtout vers l'amour. Et c'est pourtant ce qu'ils exigent le plus souvent chez les autres, hein, cette affection, alors qu'eux, ils sont dans un autre bord, je dirais, dans un autre champ.
Alors, quelle est la singularité de la vie amoureuse de nos jours, pour vous qui êtes psychologue ?
Ah oui, la singularité, elle est très particulière. C'est qu'avec l'apparition des réseaux sociaux, hein, on le constate très bien, et de la sexualité beaucoup plus précoce, on constate que les adolescents sont de moins en moins amoureux, et surtout amoureux, que durant quelques mois, avec surtout une multiplicité de partenaires. On a trop de partenaires de nos jours. Le prince charmant n'est plus qu'une utopie, alors qu'auparavant on y croyait. Les rêves sont devenus des espérances de vie que l'on veut vivre à travers les films, ces histoires de copains ou de copines. Et ça ne mène nulle part tout ça. Il y a aussi ces adolescents qui ont beaucoup de mal à découvrir l'amour, car timides ou très craintifs de leurs parents, parce qu'il y a trop d'interdits. Difficile pour ces adolescents alors d'imiter ou de croire à cette force de l'amour.
Alors à quoi ces relations amoureuses peuvent-elles néanmoins aider les adolescents à se construire? Parce que ça sert à ça l'amour quand même.
Ah ben oui, il faut se construire. Et c'est difficile de dire que c'est un amour qui peut aider un adolescent ou une adolescente à se construire et à penser à vivre un jour une vie amoureuse tranquille, qui doit être paisible. C'est pourquoi on assiste à un manque de considération pour son partenaire ou à un manque de complicité, voire un manque de fidélité au sein d'un couple. C'est très courant. Le schéma a été faussé à un moment donné, et l'adolescent de nos jours n'a jamais pensé à aimer. Il utilise l'autre et s'octroie parfois des pouvoirs démesurés, que je dirais démesurés, en abusant de l'autre ou en se faisant une collection de partenaires. C'est devenu à la mode. L'amour devient alors un jeu pour cet adolescent ou cette jeune fille adolescente qui se croit belle parce qu'elle est convoitée par beaucoup de garçons.
Alors, quel conseil vous pourriez donner aux adolescents d'ici et d'ailleurs, et à leurs parents, surtout peut-être qui doivent transmettre un peu des valeurs sur la vie affective et sentimentale?
Plusieurs conseils, mais je dirais le conseil le plus essentiel, c'est que ces adolescents, que ce soit des garçons ou des filles, ils doivent avoir une certaine éducation familiale de base. On doit leur apprendre comment aimer, pourquoi aimer. Le respect de l'autre doit être au centre d'une relation. Il faut que ces adolescents le sachent. Se dire que l'amour doit s'entretenir sur la durée et le vivre en rêve. Il faut vraiment qu'il y ait cette notion de rêve, cette envie de rêver. Croire en l'amour, parce que ça existe, et ça doit surtout exister à cet âge qui est un bel âge. Les parents doivent aussi se pencher sur les questions de l'éducation sexuelle de leurs enfants. On constate qu'il y a de moins en moins de parents qui sont ouverts à parler de sexualité. Bien avant l'adolescence, c'est important cela. Parler de vie à deux, à ses enfants, et être des parents qui y accordent aussi une importance particulière, tout en laissant le choix aux enfants adolescents de venir vers vous pour donner les points de vue sur l'amour entre ados et aussi entre adultes. Ça, c'est très important. On doit donner son point de vue.
Merci Ibrahim Haïdara. Tous ces conseils sont à retrouver, vos chroniques, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et quant à vous, les voisins, les voisines, si vous avez une question à poser aux psychologues, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp 33 7 64 45 51 41. À très bientôt.
À très bientôt, Emmanuel.
Et demain, ne manquez pas la nouvelle chronique de Charlie Dupiot qui donne la parole à des enfants pour qu'ils s'expriment sur des grands sujets qui les touchent. Et demain, on entendra des enfants à Conakry. Ils ont moins de 13 ans et ils parlent de l'amour. Autre sujet demain chez 7 milliards de voisins moins heureux. On sera dans l'intimité domestique des dictateurs. Christian Roudot a publié « À la table des tyrans » de Hitler à Saddam Hussein en passant par Mao, Staline, Bokassa ou « Comment la table et le contenu des assiettes révèlent la folie du pouvoir ». Et pour le lecteur, une certaine nausée aussi. Merci à toute l'équipe. À demain, les voisins et les voisines.
Ici l'Europe.